Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux qui la font. Aujourd'hui, je reçois un danseur, un vrai. Après avoir passé plus de 30 ans à l'Opéra de Paris, après avoir été étoile au sein de la troupe, et après avoir pris sa retraite en 2018, Carl Paquette est toujours là, évidemment, et adapte le Lac des Cygnes. Le ballet classique, que l'on connaît tous, a été réajusté et chorégraphié par Fabrice Bourgeois à destination d'un public plus familial, et notamment les enfants. Mon premier Lac des Cygnes se tiendra au Théâtre Mogador à Paris à partir du 30 novembre et pour 25 représentations exceptionnelles pour les petits comme pour les plus grands. Et c'est bien ça, la force de ce ballet. Il permet d'ouvrir le champ des possibles, de montrer la danse comme une technique, comme un art, mais aussi comme un moment de grâce accessible à tous. Et avec Carl Paquette, on va parler de l'approche qu'il a eue de ce spectacle lorsqu'il a dû l'adapter à un jeune public, de ce que veut dire être un danseur étoile retraité alors qu'on a la quarantaine seulement. Mais on va aussi parler du rapport au corps, au costume, qui conditionne également l'approche de la danse. Bonne écoute! Bonjour Carl Paquette.
Bonjour.
Alors, on est réunis à l'Hôtel du Nord, que le cinéma a rendu célèbre, mais on va parler de danse. On va parler d'un ballet qui dure 2h30 à l'origine, et que tu vas revisiter en 1h30, en 1h10 même.
1h20.
1h20, bah super. Ça implique quel genre d'ajustement? De couper quasiment une heure.
Alors c'est plus facile en général de couper que d'en rallonger où il faut créer une musique. Là ouais. En l'occurrence même ça peut être plus que 2h30, hein. Il y a des versions du Lac des Cygnes beaucoup plus longues.
Ok.
Non, on fait une chose simple, c'est qu'on garde l'essentiel finalement de l'histoire du Lac des Cygnes.
Oui.
Savoir... les actes blancs qui font partie de l'entité que tout enfant a envie de voir, un Lac des Cygnes. On a retransposé l'histoire où clairement c'est la majorité du prince qui est célébré, donc il a le droit de boire et il boit,
d'accord,
et il s'enivre, il part dans son petit délire.
Et il n'y a que deux actes.
Alors on a réuni 1 et 2 donc, en un acte, et le 2 et le 3 et le 3 et le 4 en un acte.
En un acte, voilà. Ok. T'as déjà expérimenté le public jeune?
Non. Alors non. Pour moi,
tu sais à quoi ça pourrait ressembler, leurs réactions, leur...
Moi, sur ce projet, tout est découverte pour l'instant.
C'est super.
Je m'aperçois que j'ai toujours eu une attirance pour les jeunes, le public jeune, parce que c'est, je pense, l'avenir, c'est une réalité. J'ai toujours été convaincu, même quand je dansais, que la jeunesse nous portait, nous amenait à aussi un dépassement de soi-même, parce que on est poussé par cette nouvelle génération qui a envie de percer et autres. Là c'est différent, je suis dans un concept où aujourd'hui je suis plus danseur à l'Opéra de Paris, donc pour moi c'est important d'amener les gens à la danse parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de transmettre.
Il y a cette notion un peu de gourou.
Alors gourou, peut-être dans le Rod Bart que je vais interpréter, peut-être un peu pervers s'il le faut, mais non, pas gourou, au contraire, plutôt tuteur.
Ouais, de tuteur.
Prof, envie de transmettre.
Combien de temps il faut pour préparer un tel spectacle? Il y a une quinzaine de danseurs, c'est ça?
On est pile 15 en scène.
Pile 15. Enfin, à quel moment vous avez commencé déjà?
Alors, très franchement, on a commencé lundi les répétitions. On a fait une audition qui était le 1er octobre pour définir qui danserait, qui participerait à ce projet. Ça se travaille bien en amont aussi.
Je pensais que c'était plus.
Mais ça, c'est juste au niveau des répétitions. Fabrice Bourgeois, ouais, qui est le chorégraphe, qui a complètement refait la chorégraphie de tout ce Lac des Cygnes, lui, il travaille depuis des mois.
Oui, on n'est pas sur un petit.
Non, on n'est pas. Après, tout s'est mis en place vraiment très sérieusement depuis maintenant 5-6 mois où ouais, tout a été validé. On travaille sur l'esthétique depuis clairement avant les vacances, les costumes, les décors. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place depuis ce moment-là.
Ok. Et une question qui peut paraître un peu basique, mais qu'est-ce que ça représente le Lac des Cygnes dans le monde, dans l'histoire de la danse?
Je pense que comme tout enfant, on leur parle d'un ballet, ils connaissent quoi? Le Lac des Cygnes.
Ouais. Je suis d'accord, mais...
C'est l'espèce d'institution absolue, ouais, hein, parce que la musique est quand même somptueuse, même si là je commence à trop l'entendre et qu'à un moment donné on n'apprécie plus à sa juste valeur.
On en a marre, on ne peut plus le saquer.
Mais je suis conscient que le Lac des Cygnes, c'est mythique, ça fait rêver réellement. On aurait pu commencer par un autre.
Mais en fait c'est à ça que j'ai pensé en te posant cette question.
Ouais,
c'est pourquoi, intrinsèquement.
Parce que Casse-Noisette, ça marche très très bien pour les enfants. Ouais. Bayadère avec ou Don Quichotte avec beaucoup d'humour, ça peut aussi très bien passer pour les enfants. Je me suis dit qu'il fallait un symbole. Le symbole pour moi, c'était le lac des Cygnes, qui nous permettait de passer finalement dans l'histoire dans laquelle on voulait faire une fin heureuse, fin malheureuse, parce qu'il y a plusieurs fins possibles.
Ouais.
Donc pour ça, on avait encore plus de liberté qu'un scénario très figé d'un autre ballet. Donc c'était un choix. Il fallait de toute façon commencer par un ballet. On s'est
bien
dit
sûr,
qu'on allait le décliner de toute façon.
Ça va être décliné.
Bah, c'était un peu le but. Il faut voir comment sera accueilli ce.
Ouais, ouais, mais sur le papier, c'est un chouette concept, donc il n'y a pas de raison.
Quand j'entends l'entourage des gens à qui on parle de ce projet, tout le monde semble très enthousiaste. Donc pour nous, c'est plutôt un gage de réussite avant même que le projet voit le jour. Donc on se dit, anticipons la suite. Il ne faut pas se retrouver toujours aux dernières minutes. C'est toujours mieux d'anticiper les choses pour bien faire les choses.
En quoi c'est également un spectacle pour adultes, parce qu'ils vont nécessairement accompagner les enfants, et ce spectacle est souvent présenté comme, je cite, pour toute la famille.
Alors déjà, on met pas un enfant seul au spectacle. Il faut aussi que les parents profitent de ça. Et en général, on a tendance à dire un spectacle pour enfants et joué pour des enfants par des enfants, et c'est un peu trop cliché. Je trouve qu'un spectacle d'enfants, il faut les traiter comme des vrais adultes, parce que c'est le meilleur public, c'est celui qui voit le plus juste les choses dans sa plus juste valeur, avec les émotions pures. Les réactions sont souvent en conséquence. Et donc pour ça, on s'est dit qu'il fallait vraiment que les parents, voire les grands-parents, aussi profitent de ça.
Oui, bien sûr, familial.
Et c'est pas que familial, parce que tout spectacle est familial, même
oui,
si on va à l'opéra demain. Le problème, c'est qu'à 19h30, 20h le soir, aller voir un spectacle qui dure 2-3 heures pour un enfant de 5-10 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je l'ai vu avec mes propres enfants, et je trouve légitime qu'ils puissent s'endormir devant un spectacle qui devient long. On est nous-mêmes adultes, parfois, on s'est tous retrouvés confrontés à ça.
Bien sûr, c'est
un concept plutôt le matin. La différence avec tous les autres spectacles, et c'est là aussi que ça parle à tout le monde, c'est qu'il y a une narration. Donc on raconte pas l'histoire sous une musique, mais il y a des petits passages qui sont narrés pour expliquer encore mieux, pour dire à l'enfant, vous n'avez pas mal compris, c'est juste qu'on vous réexplique mieux les choses, parce que c'est de la danse, il y a des codes dans la danse, et quand on n'est pas initié à ça, il faut un début à tout. C'est aussi une forme d'initiation pour leur montrer qu'on prend du plaisir à voir quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
Et bien justement, quel conseil tu donnerais aux enfants qui veulent faire de la danse leur métier et qui seront probablement dans la salle ?
Déjà de profiter. Je pense qu'une vocation, elle naît de soi-même. Si en ressortant de ce spectacle, ça leur donne envie d'aller en voir un autre, ça sera pour moi déjà la réussite de ce projet. Pour moi, c'est d'initier les gens à venir voir des ballets. Après, les vocations, elles naissent aussi de même, d'un environnement familial qui le permet. Il faut que derrière, des parents accompagnent l'enfant. Ce n'est pas un enfant seul qui se bat contre une famille pour pouvoir faire de la danse. Ça, c'est toujours un gros dilemme.
Ouais.
Parce qu'il y a un aspect financier, il ne faut pas le cacher.
Bien sûr.
Moi, j'ai aussi ce projet et j'espère qu'il va avoir le jour dans les prochaines semaines. C'est de créer une association Rêve d'Étoiles pour aider les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de les amener à pouvoir suivre des cours de danse, à pouvoir... Le but est pouvoir l'élargir au maximum selon les dons qui seront faits à ce moment-là.
Ouais,
mais
ouais.
C'est vraiment dans ce but-là, moi, d'amener les gens à la danse. J'aime mon métier, j'ai pas été lassé même encore à mon âge de la danse. Peut-être certains le sont, moi pas du tout. Je trouve que j'ai eu la chance de vivre d'un métier dans un art où tout est mêlé et c'est toujours nouveau. Et même quand on fait une série de 20 spectacles, chaque soir c'est différent. Donc pour ça, pour moi, il y a un truc fabuleux et j'aime en parler, j'aime faire partager en tout cas à cette jeunesse et leur montrer que c'est dans la répétition qu'on obtient aussi du bonheur, que c'est pas...
Oui,
il faut pas vouloir le truc et le changement instantané. On n'est pas sur les réseaux sociaux à ce moment-là.
Bien dit. Pourquoi est-ce qu'on dit que le ballet classique... C'est pas accessible à tous en tant que spectateur.
C'est pas accessible à tous parce qu'on a une on a une image aujourd'hui de l'institution, je pense. Alors Opéra de Paris, qui est l'emblème, faut pas le cacher, de ce qui existe en France. C'est cher, c'est dur de trouver des places par moment.
C'est que le prix. Ok.
C'est 7h30 le soir. Alors je crois que pour moi, je suis conditionné, ça fait 25 ans que j'étais dans cette baraque où je savais que c'était à 7h30 le soir, mais je pense que pour certains, de sortir du travail assez tôt pour être à 7h30 précise au spectacle, pour certains c'est compliqué. Donc il n'y a pas tous les critères qui sont réunis par moment pour y accéder. Ça reste sur Paris, pour un provincial c'est compliqué, donc c'est forcément le week-end, c'est une organisation beaucoup plus conséquente. Donc on a cette image de l'Opéra de Paris et autres. Il y a d'autres compagnies qui existent en France, Bordeaux, Toulouse. Il y a des compagnies qui ont vraiment une belle qualité que je vois évoluer. Donc il faut arriver à changer tous ces codes. Il faut arriver à démocratiser la danse classique. On le voit, c'est très bien fait pour certaines sessions comme le hip-hop que j'adore, que je trouve qu'ils ont une façon de pouvoir aller venir comme ça dans la rue, l'instant présent. Et ça crée, même en moi, je le vois, et ça crée des émotions d'échanges, de partage. Donc il faut que nous, on arrive à trouver les clés là-dessus. Alors ça passera peut-être par mon premier lac des signes. Si c'est le cas, j'en serais hyper fier, et pas pour moi, c'est juste fier pour la danse, parce que il faut que ça perdure dans le temps. On est à une époque où on s'aperçoit qu'on a maintenant des moyens colossaux pour notre évolution personnelle. Autant profiter dans la danse. On a, sur les 50 dernières années, fait un bond magistral en termes de d'évolution technique, artistique et autres. Il faut, faut rebondir là-dessus et continuer à aller de l'avant.
Alors, lorsqu'on est étoile, l'âge limite est de 42 ans. Alors, désolé, j'ai brisé le mythe sur ton âge. après ça, on est contraint de prendre sa retraite. Alors, tu as été nommé étoile le 31 décembre 2009. Tu as pris ta retraite le 31 décembre 2018. Après avoir passé 32 ans en tout à l'Opéra
avec
de Paris.
L'école, c'est ça.
C'est quoi un danseur retraité ? C'est nécessairement un prof ? C'est nécessairement une reconversion forcée ?
Alors, un danseur retraité, la classe absolue, c'est d'être avec toi aujourd'hui, Hôtel du Nord. Il est quelle heure là ? Il est 16h.
C'est certainement
tout le monde bosse,
heures,
mais nous là, on est là tranquille à l'Hôtel du Nord.
Okay, voilà, dit comme ça, c'est ok.
Mais ça, c'est le petit détail. Non, qu'est-ce que ça fait ? Je trouve que. Alors, il y a deux points. Un, il faut accepter, et pour certains, ça l'est pas forcément, il faut accepter de passer à autre chose.
Mais justement, c'est pas qu'est-ce que ça fait, c'est quoi passer à autre chose ?
Ouais, mais moi, quand j'étais jeune et que je voyais les vieux danseurs qui s'accrochaient et qui voulaient continuer à faire les mêmes choses et toujours les mêmes choses, à un moment donné, il faut accepter qu'on n'est plus dans le corps d'un gamin de 18 ans, qu'on ne peut plus danser les mêmes choses, qu'il faut accepter d'évoluer. Donc, ça passe par d'autres rôles, et on en a besoin. Ouais. Et ça passe aussi... par la transmission, par la chorégraphie, par une direction, peu importe ses choix, mais il faut savoir accepter qu'on ne peut pas danser éternellement. Donc, il faut se faire aussi cette réflexion en soi, d'aller chercher au plus profond de soi-même ce dont on est capable. Moi, ça fait des années que j'y réfléchis, que je savais que le couperet allait tomber, pas un 31 décembre, mais je savais qu'il allait arriver à mes 42 ans.
Ouais.
Et j'ai toujours voulu transmettre. Donc, pour moi... Je me suis toujours visualisé enseignant, prof à l'école de danse, parce que ça a toujours été quelque chose, fils de prof, on va pas se réinventer. Ça me plaît quand je vois mes propres enfants, le bonheur qu'ils ont de partager des choses avec certains de leurs profs et autres. Et moi-même, j'ai aimé la danse parce que j'ai une super directrice d'école de danse, parce que j'ai eu un professeur, Max Bozzoni, qui m'a... à sa manière à lui, amener à aimer la danse sous toutes ses coutures.
Oui, c'est le pouvoir de la transmission.
Et alors là, ça passe aujourd'hui par ce projet. Tant mieux si je peux après récupérer des gamins qui me disent « Ah ben, je suis venu voir votre lac des signes, j'ai envie de faire de la danse », mais je serais le plus heureux d'aller leur transmettre tout un savoir.
Ben oui.
Donc ça passe par là. Réellement, 42 ans, il faut accepter de faire autre chose. Donc ça, ce projet me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça m'a fait lever très tôt. Je réalise que quand on est danseur, on s'occupe beaucoup de soi. Là, il faut s'occuper de tous les autres. Parce que je ne suis pas seulement danseur dans ce projet. Je suis surtout le directeur artistique. Donc, je chapeaute tout le monde. J'apprends énormément. Je rencontre des gens fantastiques. Je suis très fier de l'équipe artistique au complet. On a Fabrice Bourgeois qui est notre chorégraphe. Qui est un vrai génie de la chorégraphie. On a Clément Hervieux-Léger qui est un ami d'enfance et qui a refait le livret, qui fait la narration notamment dans le ballet. Xavier Rons qui est responsable du service couture à l'Opéra de Paris et qui a redessiné tous les costumes et qui chapeaute toutes les équipes pour la fabrication des costumes. On a Nolwenn Clairet, qui est une artiste peintre que je connais depuis des années et qui a fait un petit bijou de ses décors, qui voit dans le détail jusqu'au bout. Et toute cette équipe, on a réussi à trouver donc tous les danseurs.
Comment vous les avez trouvés, justement?
On a fait une audition depuis le 1er octobre. Ils ont été choisis et ils sont pieds au plancher déjà. Et donc là, tout ce monde-là qui travaille au quotidien, parce que c'est
bien
pas
sûr,
juste
ouais.
une projection, c'est au quotidien qui nous amènera au 30 novembre à la première. Et donc ça me met en joie de voir que ça évolue chaque jour, une petite pierre à l'édifice.
Danseur, est-ce que c'est une carrière qui est définie par les concours, par la compétition?
Alors, pas forcément concours-compétition, mais plutôt rigueur.
Par la rigueur
Ça peut passer par un concours. Moi, je suis pas contre le concours. Je trouve que c'est toujours bien de se challenger soi-même. Alors, il y en a beaucoup qui comparent ça. Maintenant, il faut pas les mettre en doute. Il y a le côté, on va protéger la psychologie de l'enfant, mais
ouais.
À un moment donné, il faut appeler un chat quand on veut monter étoile. Une réalité, c'est que c'est pyramidal. Donc, plus ça va et moins il y a de postes et plus il y a d'enjeux. Donc,
est-ce qu'il faut travailler plus que les autres? Pour étoile.
Pour ma part, en tout cas, ça a été le cas. J'ai eu la sensation de devoir m'accrocher plus que les autres à la barre et de devoir faire plus. Je me sentais pas le plus doué de ma génération, donc c'est une réalité. C'est pas.
Donc le travail a payé pour le coup.
Pour ma part, j'ai l'impression qu'en tout cas, le travail a payé.
C'est pas qu'une histoire d'hygiène de vie.
Et quand on travaille, on favorise la petite chance qui peut nous être offerte ce jour-là pour s'en saisir et profiter de l'espace qui est à ce moment-là ouvert et de dire mais moi je suis prêt, j'ai travaillé pour ça.
Donc tu as travaillé mais tu es également grand. Est-ce que c'est un...
Je suis pas le plus grand.
Tu es pas le plus grand,
non.
Peut-être, mais tu fais 1m83.
Ouais.
Non, je suis pas arrivé avec un double décimètre pour ceux qui nous écoutent, je vous rassure. Mais d'un point de vue physique, est-ce qu'il faut être grand?
Alors, j'ai aussi j'en ai pris conscience assez tardivement que j'avais les qualités de mes défauts aussi. On m'a beaucoup reproché, moi, je suis rentré à l'école de danse, tout court,
ouais.
Que j'avais pas des jolis pieds, que j'avais des genoux un peu cagneux. Après, on juge pas un danseur et une carrière que sur ça, mais toute mon école de danse, même à mon entrée dans le ballet, on me rappelait régulièrement, mais Karl, il a pas des beaux pieds, ça fait pas une jolie ligne, puis il a des genoux un peu, c'est comme ça. Et après tout, j'ai vécu toute ma carrière. Quand je dansais un rôle finalement en pantalon, là ça posait plus de problème à personne, mais quand j'étais en collant. Et puis un jour, on m'a dit, mais tu sais, t'as aussi, t'as peut-être ces défauts-là, mais t'as aussi les qualités de tes défauts. Et c'est-à-dire qu'en conséquence, j'avais peut-être pas les chevilles longilignes, mais j'avais finalement cette résistance qui m'a permis toute ma carrière d'éviter la blessure. Moi, je réalise que contrairement à tous, j'ai jamais eu de blessure, j'ai jamais eu d'entorse ou autre. C'était finalement une chance au quotidien parce que de savoir qu'on ne va pas se blesser, que la charge de travail qui nous est demandée à ce moment-là, elle n'a pas de limite.
Moi, ça tient aux chevilles.
Pas que les chevilles.
Non, bien sûr.
Je n'ai pas les chevilles qui gonflent. Hein. Mais non, c'était aussi l'ossature qui derrière, alors ce n'est pas 1m83, c'est aussi une ossature qui faisait que j'étais épargné par la blessure. Je pouvais résister à une grosse charge de travail. Et en même temps, quand on résiste à une grosse charge de travail, on en sort aussi vainqueur et fortifié de ça. Et donc en conséquence, notre corps, il digère et il progresse et il va dans le bon sens. Donc non, c'est des facteurs de réflexion, de chance, de travail. Une vie, c'est un parcours, c'est inégalable. On a l'impression que souvent, on dit lui, il a pas de chance en permanence. Il y en a, c'est la vie. Et peut-être pour d'autres choses, j'ai pas eu de chance. Mais en tout cas, je me sens pas frustré par rapport à mon métier. J'ai en effet réussi, on va pas le cacher.
Bien sûr, ouais, mais c'est très bien.
Et j'ai pas la sensation d'avoir été non plus mis à cette place-là par hasard. Je pense que j'ai mis du temps à y arriver et c'était tant mieux pour moi. Parce que du coup, quand j'y étais, je me sentais à ma place.
C'était bien.
Et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui est finalement heureux d'y être. Et quand on est nommé trop jeune ou autre, parfois ça pose des problèmes.
C'est quoi les plus grandes étapes de ta carrière selon toi ou tes meilleurs souvenirs?
Ah, j'en ai quelques-uns. Alors, il y a des étapes franches. Alors, c'est l'entrée à l'école de danse, parce que finalement, c'est un vrai déclic. Là,
c'est pas nécessairement ce que tu voulais faire quand tu étais étais petit.
J'ai pas rêvé plus que ça de danse. J'ai réalisé après que tant mieux, mes parents m'ont initié à ça, ils m'ont permis de le faire, mais ils m'auraient pas mis à la danse. Je pense pas que j'y serais venu de moi-même. Ça, c'est une évidence. Mais donc, je rentre à l'école de danse, j'ai 10 ans et demi, je suis interne à Nanterre. Donc ça, c'est une étape d'une vie parce que Déjà, ça forge le caractère un peu plus rapidement, ouais. Je pense, qu'un enfant qui est à la maison. Et pourtant, même le week-end, j'étais très couvé parce que j'ai toujours aimé mes parents et j'ai toujours aimé la façon dont ils avaient de vouloir mettre en priorité l'éducation de leurs enfants. Donc, c'était okay. Pour nous, on le ressent quand on est adulte, mais c'est une réalité. J'ai senti qu'il y avait toujours cet effort qui avait été fait pour nous. Donc ça, c'est vraiment une étape. Rentrer à l'école de danse, 7 ans d'internat, c'est pas anodin.
C'est beaucoup.
Du dimanche soir au vendredi soir.
C'est
et puis c'était pas à l'époque d'aujourd'hui, hein, on n'avait pas les réseaux sociaux, il y avait une cabine téléphonique hyper intime, genre tout le couloir entend ce qu'on raconte, donc non, c'était pas aussi facile que...
Ouais, c'était pas la fête.
Non. Donc ça, première étape. Deuxième étape, on va pas le cacher, c'est de rentrer à l'Opéra de Paris, parce qu'il faut pas oublier que l'école de danse, c'est 6 divisions, donc j'en ai fait 6 plus une parce que j'ai redoublé ma dernière année. Donc on se pose des questions à 16-17 ans de se dire, mais est-ce que je suis fait, est-ce que j'ai le talent, ouais, pour entrer à l'école, dans la compagnie,
oui, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices, d'efforts.
Puis il y a pas que moi, il y avait de la concurrence, il y a des très bons danseurs. Bon, une étape de franchie, j'intègre la compagnie et je pense que c'est ce qui me convenait, c'est d'avoir signé un CDI. Parce qu'on n'a pas à chercher un emploi. Je savais que je signe un contrat pour mes 45 ans à l'époque, parce que ça a changé en cours de route. Et c'est pas pour autant que j'ai eu envie de glander et de rien faire. Hein. C'était cette assurance d'avoir un travail, d'être heureux dans une maison qui me plaisait. Et du coup, en conséquence, ça m'a permis de m'épanouir. Et une autre étape importante. Alors, j'ai souvent parlé de ma nomination d'étoile. Je dirais même avant tout, ça a été surtout ma promotion de premier danseur. Donc, il y a des concours en interne, peut-être que tu voulais en parler après, mais on a des concours en interne. C'est comme c'est pyramidal, il y a le statut de quadrille, coryphée, sujet, premier danseur. À partir de premier danseur, on est nommé danseur étoile. Et il se trouve que donc moi, j'ai passé mes concours de quadrille, de coryphée, et j'ai passé un seul concours de sujet pour monter premier danseur.
Ouais.
Et ce concours de sujet-là, j'y croyais vraiment pas, dans le sens où je venais de monter dans la classe des sujets. Il y avait beaucoup de bons danseurs qui attendaient leur place depuis quelques années. Légitimement, ils postulaient. J'étais pas la personne à qui on donnait des rôles dans la saison, donc je me sentais pas poussé. Je me suis dit, pourquoi se confronter à un concours ? Et finalement, je l'ai quand même passé et je suis monté. Donc j'ai réalisé qu'en étant tout d'un coup soliste dans la compagnie, j'avais accès à plein de rôles, à un répertoire que je voulais faire, clairement, quoi. Donc ça a été aussi franchement une étape hyper importante. Je serais resté quelques années de plus sujet, peut-être je serais jamais devenu étoile. Donc ça, c'est aussi peut-être un déclic non négligeable.
Complètement, puisqu'on en est là aujourd'hui. Alors quand on arrive à certains niveaux, quel que soit le domaine d'ailleurs, j'imagine qu'on se dit, légitimement, qu'on peut apporter quelque chose à la danse et pourquoi pas la révolutionner, mais qu'on peut apporter quelque chose. Qu'est-ce que tu penses, toi, apporter à la danse ou à ta génération de danseurs? Et c'est moi qui te pose la question, donc il n'y a pas de souci de pédanterie, de prétention, t'en fais pas.
Non. Moi, ce que j'ai apporté à la danse, j'ai surtout défendu la valeur danse classique. Ça a été pour moi le plaisir d'être à l'Opéra de Paris, parce que pour moi, c'est la plus belle institution en France pour représenter la danse classique. Et donc, du coup, à ce titre-là, en tant que danseur étoile, je me suis dit, mais il faut continuer à préserver ce que tout enfant rêve de faire, c'est la danse classique. Il y en a très peu qui, quand ils commencent la danse, rêvent franchement de hip-hop ou d'autre. Il y a toujours cette espèce de vision de la danse classique et après qui dérive, et j'adore le très bon contemporain, c'est pas une critique, mais moi je me suis dit,
bien sûr, il y a pas de...
au niveau que j'ai atteint et j'aime ça, et donc j'ai essayé de défendre jusqu'à la dernière, au dernier pas de danse, la danse classique. Donc c'était pour moi important de faire mes adieux sur la danse classique. À 40 ans, je n'ai pas cédé sur les grands classiques. Après, on ne va pas danser Roméo à 40 ans, mais j'ai fait les autres rôles à ce moment-là, et pour moi, ça a été hyper important. Et c'est aussi pour ça le symbole de faire l'acte des signes, c'est la danse classique. Pour moi, il y a quelque chose de pur que je connais maintenant très très bien. Ça ne veut pas dire qu'on connaît tout, parce qu'on apprend même encore aujourd'hui en refaisant une adaptation du lac, on aperçoit qu'il y a d'autres subtilités, d'autres choses qui rentrent
en
jeu.
Bienvenue dans le monde de l'art.
Exactement. Non, c'est la seule chose. J'ai pas de prétention de dire que moi j'ai apporté à ma génération. On était plusieurs. C'est une génération qui fait que eh ben, on amène quelque chose de nouveau. Ouais. Je me sens plus, moi, d'une génération d'avant moi, où j'ai été élevé par... biberonné, on va dire. C'était la génération d'Emmanuel Legris, Nicolas Leris, José Martinez. C'est ceux qui, quand je suis rentré dans le ballet, en tout cas, me faisaient encore rêver. Et je suis resté sur leur schéma, leur façon de travailler, sur qui me correspond aujourd'hui. Okay. Après, je ne me sens pas en décalage d'une société, loin de là. Je crois que tout le monde est adepte de ce projet encore.
Quand on vieillit, quand on est retraité, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, mais en quoi le corps est moins performant du point de vue de la danse?
Parce que on est moins souple, on le voit soi-même, on est moins, l'élévation est moins haute. L'endurance, on a du mal à garder le rythme à 100% comme avant, c'est une réalité. Après, il y a le bonheur de la maturité artistique qui vient pallier ces manques physiques,
techniques. La vie est bien faite, quoi.
La vie bien faite, puis à un moment donné où clairement on n'arrive pas à combler, donc on passe à autre chose. Ouais. C'est pas très grave, mais il faut juste l'accepter. Après, nous on n'est pas des sportifs de haut niveau, donc on n'a pas ce besoin de résultats, de chronomètre et autres.
Non, il n'y a pas de chronomètre, c'est sûr.
Il y a d'autres rôles qui du coup s'ouvrent à nous. Je pense pas qu'un gamin, quand il a 18 ans, il rêve de faire le rôle de Eugène Onieguine tout de suite. C'est plus un rôle avec de la maturité où il faut du poids en scène, il faut des choses. Donc c'est très bien. Et puis il y a des rôles à ce moment-là qui s'offrent à nous. Il faut juste accepter de faire une évolution, et ça c'est le principe même de tout danseur qui doit accepter qu'il y a une évolution qui se fait. Il faut chercher d'autres façons de travailler. On peut pas travailler de la même manière à 18 ans tout fougueux et à 35. À un moment donné, le corps il ne tiendra pas, et c'est ça qui est intéressant.
Répéter un mouvement, répéter un pas, ça implique quel lien avec son corps?
C'est l'abnégation de le faire tous les jours, et même quand on a pas envie de le faire, il faut le faire. C'est même encore aujourd'hui, là, on travaille sur le lac des cygnes. Tous les matins, je refais les mêmes exercices, les mêmes pliés, les mêmes dégagés. C'est normal, ça passe par ce travail-là. Comme un musicien, il fera ses gammes. Comme un comédien, il va répéter, il va travailler sa voix. Enfin, il y a plein de choses qui sont...
L'abnégation.
Ouais.
C'est ce que ça a conditionné, la danse, dans ta vie?
L'abnégation... Pas que, non, plaisir. J'ai quand même envie de remettre cette notion
tant mieux.
De plaisir, parce que il faut réussir à trouver le plaisir dans ce travail. Moi, je sais que je pouvais passer 6-7 heures de répétition par jour à l'opéra, mais s'il n'y avait pas ce plaisir d'être là, de rigoler, de partager avec les autres dans le studio, ça devient dur, quoi. C'est du labeur pour du labeur. Alors. J'espère avoir insufflé ça à chaque fois à mes partenaires, aux répétiteurs, aux chefs de chant qui nous accompagnaient dans les studios pendant toutes ces années, que passer un temps en répétition avec moi, c'était aussi un moment agréable à partager,
j'espère,
dont on
toi.
Se souviendra, j'espère.
Quels sont d'ailleurs les mouvements caractéristiques du spectacle que tu t'apprêtes à diriger au Théâtre Mogador?
Il n'y a pas de mouvement caractéristique, il y a surtout les signes. Donc ça, il y a une recherche du port de bras pour que le signe soit le mieux représenté. Après, il n'y a pas un morceau en particulier, c'est un tout. Pour l'instant, alors peut-être qu'à force et au fur et à mesure que les répétitions vont se caler, on va peut-être trouver... Il y aura peut-être la photo, la pose qui sera le symbole de ce ballet, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore.
Ouais, il n'y a pas une partie du corps non plus qui est plus mise à contribution.
Non, pas pour l'instant.
Ok. Et une petite question un peu plus légère, quoique, en fait, c'est une partie relativement constitutive de ton métier. Quel est ton rapport à ce vêtement, qui est aussi ton outil de travail, qui est le collant? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un truc que tu ne sors même plus à la longue? Est-ce que...
Alors, on s'y fait bien. Alors, mes premiers souvenirs, c'est le collant, comme tous les jeunes enfants qui arrivent à l'entrejambe, là, qui n'arrivent pas à monter, et c'est insupportable.
Ouais.
Mes deuxièmes souvenirs, c'est ce collant lycra insupportable à porter, où on se sent mal dedans, on sent que c'est pas fait pour nous.
En
même temps, c'est l'outil du danseur, je m'aperçois maintenant.
En tout cas, c'est pas le baggy, visiblement.
Alors, je m'aperçois qu'avec l'évolution, la matière a quand même un peu évolué.
Ah,
c'est quand même moins désagréable à porter.
Okay.
Je dis pas que c'est quelque chose d'agréable. Après,
agréable.
C'est pas que le collant en soi qu'il faut porter, c'est surtout la couleur du collant souvent. Et il n'y a pas un danseur qui te dira j'aime porter un collant blanc. Voilà.
Et on devine aisément pourquoi. Mais...
Pourquoi blanc? Parce que on voit
toutes les aspérités, tous les défauts de la jambe. Et ouais, bon, tout, comme tout danseur, on n'a pas forcément une vision de ses qualités, mais plus de ses défauts. Donc on verra toujours le défaut dans la jambe en priorité. Donc un collant noir par défaut, eh ben, on voit on moins aime bien. Les voilà. On l'aime mieux.
Ok. Et ben, une dernière petite question que je pose à tous mes invités. quels sont tes derniers coups de cœur culturels?
Alors, c'est aussi une rencontre personnelle. Ouais. J'ai la chance que nos enfants respectifs sont dans la même classe, mais j'ai découvert Grand Corps Malade, qui est un artiste plein à tous les niveaux. Alors, j'aime sa musique. J'étais pas fan du slam en soi avant.
Ouais.
J'ai découvert, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Et je me dis qu'en le côtoyant, j'aimerais pouvoir donner ce qui l'amène, en tout cas lui à la chanson, de la même manière, pouvoir l'amener à la danse et de pouvoir faciliter, d'être aussi simple par rapport à notre métier.
C'est très bien dit. Ouais. Merci beaucoup, Carl Paquet.
Merci.
Et bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine. En attendant, si comme moi, la passion, l'art et le parcours de danseur de Carl Paquet vous ont plu, n'hésitez pas à partager l'épisode, à en parler autour de vous, c'est la meilleure manière pour moi de faire grandir le podcast. Je vous rappelle évidemment que mon premier Lac des Cygnes se joue au Théâtre Mogador à partir du 30 novembre et pour 25 représentations. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.